premier sur l'info. Le journal présenté par Cédric Valax.
Et c'est parti pour le journal. Cédric, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, les conditions météorologiques, elles s'améliorent aujourd'hui même. Si Tahiti et Moléa restent en vigilance jaune pour les fortes pluies, on fait le point en début d'édition. Nous ferons le point également sur les écoles fermées aujourd'hui par précaution et sur la situation à Tarapuna. La route d'accès du lotissement était impraticable hier. Il va falloir faire d'importants travaux. Pays et syndicats de copropriétaires se renvoient la balle sur la responsabilité et l'initiative de ces travaux. On se fout vraiment de notre tête, c'est ce qu'a déclaré hier le président de l'association Mololo Waitatao après que le gouvernement a fait passer le décret modifiant la loi Morin dans le texte de loi sur l'égalité réelle. Avec lui, la notion de risque négligeable fixée à 0,3%, ça grogne du côté des associations mais aussi du gouvernement. Plus léger pour terminer, nous poursuivrons notre série de portraits consacrés aux cuisiniers engagés dans le concours du meilleur cuisinier de Polynésie. Ce sera en mars et nous terminerons en parlant cinéma avec le 14e FIFO.
Alors, on commence avec la météo et ça y est, on va commencer à voir le bout du tunnel.
Ah oui, si Météo France a maintenu sa vigilance orange pour fortes pluies, vent et houle sur Rapa, ça va mieux du côté de la société où seul Tahiti et Moréa restent en vigilance jaune pour la pluie. Après deux jours de fortes précipitations, les prévisions donnent une baisse graduelle de l'activité pluvieuse aujourd'hui, même si le temps perturbé se maintiendra jusqu'à ce week-end. Prudence tout de même, le point complet avec Moretto en fin de journal.
Oui, et puis ça s'améliore, mais beaucoup d'écoles seront encore fermées aujourd'hui.
Eh oui, pour des raisons de sécurité, le maire de Montréal avait déjà annoncé la fermeture de tous ses établissements scolaires hier et aujourd'hui. À Maïna, la commune a décidé d'en faire autant uniquement pour les écoles maternelles, primaires et le centre des jeunes adolescents. Sur la commune de Fa'a, Fala'ei 3, Verotia, Eiri et Piafa où seront fermés car ces établissements se trouvent dans des zones proches de cours d'eau. Le maire de Tairapu West a également annoncé hier la fermeture des écoles de Teaupo, Vairao, Toahutu pour aujourd'hui. À Maupiti, en revanche, les établissements scolaires devraient rouvrir après une fermeture de deux jours. Et selon un communiqué du ministère de l'Éducation, les autres établissements scolaires resteront ouverts, notamment pour accueillir les élèves sans autre solution.
Et puis on fait le point également sur l'état de la route.
Oui, depuis le début des intempéries, on déplore plusieurs dégâts, avec notamment des inondations causées par des caniveaux bouchés, la crue de certaines rivières ou encore des arbres couchés sur la voie publique. Certaines routes ont même été rendues impraticables. C'est le cas de celle du lotissement de Tahapuna à Punaouia, où les crues ont creusé d'énormes crevasses, à tel point que les riverains ne pouvaient même plus emprunter cette portion de route hier. Sur ce point précis, le nouveau ministre de l'équipement, Luc Fa'atao, estime que Tahapuna relève du domaine privé. Le pays ne peut donc intervenir que sur demande du syndic. Luc Fa'atao, interrogé par Vaite Ulri Pambrin.
La route de Tahapuna est gérée par le syndic de la résidence Tahapuna. Il fait que nous ne pouvons pas intervenir comme ça sur un domaine privé. En plus, le syndicat n'a pas fait appel à nos services. Donc nous estimons que le syndicat maîtrise et va prendre en charge son domaine.
Si aujourd'hui le syndicat faisait appel au pays, est-ce que le pays va intervenir sur ce site?
Nous ferons ce que nous pourrons faire. Mais il est clair que nous interviendrons s'il y a une demande. Mais là, nous sommes dans un domaine privé.
Autre son de cloche du côté de la société de gestion des copropriétés, la Sogeco, le syndicat qui gère Tahapuna. Son gérant Gilbert Fessia estime que le pays a une responsabilité dans le traitement de ce problème. Pour lui, la route appartient à la SAGEP, donc au public.
La route du lotissement est encore la propriété de la SAGEP, qui est un organisme où le territoire est actionnaire. Nous, on va demander ce qu'un bureau d'études étudie pour qu'on trouve une solution définitive pour ce problème.
On a vu aussi dans certaines vidéos qu'il y a eu des avalanches d'eau de part et d'autre de la montagne.
Une cascade d'eau qui descend de 1 du lotissement OPH et 2 du lotissement Léon Matatia. Je pense qu'il y a un sous-dimensionnement des pluviales qui a été fait, puisque entre-temps, entre les années 2000 et maintenant, il y a beaucoup de maisons qui sont construites. Donc maintenant, il y a un sous-dimensionnement. Il faut qu'on trouve une solution pour retenir l'eau un peu plus haut pour qu'elle s'évacue plus doucement.
Voilà Gilbert Fessia qui considère que le pays doit donc participer avec le lotissement à la reconstruction de la route qui a été endommagée.
On a eu 150 mètres de route touchée, des trous d'un mètre 20 de profondeur, des dalles qu'on sautait, c'est-à-dire des systèmes que c'est une pluviale qu'on sautait.
Tous ces grosses crevasses sont dues à quoi finalement?
Ben, ce sont des eaux pluviales qui descendent de ces deux endroits, lotissement OPH Tahapuna et lotissement Léon Matatia. On demande qu'il ait plus rapidement soit une table ronde, dès la semaine prochaine, on est prêt. On a écrit au ministère que nous n'avons jamais répondu.
Si la semaine prochaine vous envoyez un courrier qui restera lettre morte aussi, qu'est-ce que vous ferez?
Le bureau et nous-mêmes déciderons l'action qu'on va mener.
Et pour être complet sur ces conditions climatiques, on fait aussi le point sur les transports maritimes.
Oui, la situation revient à la normale ce matin pour les navettes qui effectuent les rotations entre Moréa et Tahiti. Pour l'instant, tout se passe bien, même s'il peut y avoir du retard en raison des conditions de mer.
Et politique maintenant avec la loi Morin modifiée au pas de charge au Sénat.
Oui, amendement surprise la nuit dernière au Sénat. Le contenu du décret modifiant les conditions d'indemnisation des victimes du nucléaire par la loi Morin a finalement été intégré à la loi sur l'égalité réelle outre-mer. Pourquoi ? Parce que selon la ministre des Outre-mer, Erika Barrett, le Conseil d'État a retoqué le décret modifiant la loi Morin pour un problème juridique. Selon nos informations, la précision du seuil minimum de risque négligeable d'irradiation n'était pas expressément précisée dans la loi Morin initiale de 2010 et il n'était donc pas possible de modifier cette notion par décret. Le gouvernement central s'est donc rabattu en urgence sur la loi sur l'égalité réelle outre-mer pour faire passer la modification.
Une surprise qui n'a pas été du goût de tout le monde évidemment.
Oui, à commencer par la sénatrice Lana Tétouan, mais qui a expliqué avoir été mise au pied du mur si elle a émis des réserves sur le fond de ce texte, notamment sur la notion de risque négligeable et sur le pourcentage retenu. La sénatrice a tout de même voté pour cette modification dans, je la cite, l'esprit d'avancer dans le processus de nos revendications à venir. Par contre, ça ne passe pas du tout du côté de Mololo et Tata, au hasard du calendrier. L'association de défense des victimes des essais nucléaires a organisé hier une conférence de presse sur les modifications attendues sur la loi Morin. Mais après le vote en urgence au Sénat, l'association fulmine, elle qui demandait la suppression pure et simple de la notion de risque négligeable. Pour son président Roland Lame, les choses sont claires, on se fout vraiment de notre tête.
On nous a dit, c'est pas possible, hein. C'est difficile de changer la loi, ça prend des années. Le gouvernement pourtant peut faire un décret ou un amendement, mais pour le risque négligeable, c'était pas possible. Alors là, ils s'empressent à faire une modification. Nous, on aurait été un peu plus soulagés si la modification, c'est aller dans le sens de supprimer le risque négligeable. Mais non, c'est pour renforcer leur point de vue. Donc ça veut dire qu'on a parlé, avec beaucoup de patience pendant des années, mais on nous a jamais écoutez, on nous a toujours parlé toujours et puis voilà, on a un gouvernement là, donnez toujours votre avis, mais on tient même pas compte de votre avis et puis voilà.
Voilà, Roland Dab interrogé par Valentine Bluet. Le gouvernement a envoyé un communiqué hier en indiquant que sa position reste inchangée sur la demande de suppression du risque négligeable. L'association Mololo et Tatao et le gouvernement doivent se rencontrer dans les prochains jours. Roland Dab compte demander aux élus polynésiens de rester fermes face à l'État.
Et on poursuit avec nos portraits de cuisiniers.
Et oui, cela fait maintenant un an et demi que Camille Charbonnier, 23 ans, officie dans les cuisines du Brando. Elle complète le quatuor de professionnels sélectionnés pour le concours du meilleur cuisinier de Polynésie qui sera organisé au mois de mars. Camille Charbonnier qui a toujours son cœur qui balance entre cuisine et pâtisserie. L'important pour elle, c'est de faire plaisir aux gourmands avec ses plats. Écoutez, elle est au micro de Valentine Bluet.
J'ai toujours voulu faire de la cuisine. J'ai travaillé un petit peu en salle quand j'étais au lycée hôtelier, également en réception, mais c'est pas ce qui m'attirait le plus. Je préférais créer des choses et faire partager aux autres au niveau des assiettes. L'essentiel, c'est de pouvoir créer des plats, des saveurs qui cohabitent, qui révèlent les autres et de pouvoir faire plaisir aux gens qui les dégustent.
Voilà, et Camille se remet constamment en question. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle participe à ce concours. Un concours qui ne sera pas évident pour la jeune femme qui n'a jamais cuisiné de chèvre. Mais la gastronome espère en apprendre davantage sur la culture culinaire du Fénois. Et ses nombreux voyages dans les îles sont motivés par ces échanges. D'ailleurs, Camille songe déjà à sa prochaine destination.
Je pense quitter la Polynésie, pas tout de suite, mais dans quelques temps. Et après, je pense refaire une expérience dans les îles ailleurs. Pas forcément en Polynésie, mais à l'étranger ou dans l'Outre-mer.
D'accord, qu'est-ce qui te plaît justement dans les Outre-mer ?
Bon, c'est de pouvoir découvrir une nouvelle culture, c'est complètement différent de la métropole. Et puis le climat est aussi agréable pour travailler. On fait des choses complètement différentes de ce qu'on pourrait faire en France, en station de ski.
Voilà, on aura plus de détails sur tout ça au mois de mars, au moment de ce concours.
Oh, pauvre petite biquette.
Ouais, ça doit trembler aux marquises.
C'est ça. Il n'y en a plus d'ailleurs. Elles sont planquées. Allez, cinéma pour terminer avec le 14e FIFO.
Ouais, une édition programmée du 4 au 12 février à la Maison de la Culture. 40 films seront projetés durant cette semaine consacrée à l'Océanie. Mais le Festival International du Film Océanien, c'est également une série de conférences et de rendez-vous ouverts aux professionnels comme au grand public. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès du FIFO depuis 14 ans. Et si le FIFO permet maintenant de célébrer la liberté de la création dans le Pacifique, on le doit à la volonté de deux hommes. Il y a 14 ans, l'actuel ministre de la Culture, qui dirigeait alors le Tefale Tautinui, El Moana Mahamatu Yautapu, et le directeur de la station locale de RFO, Wales Kotra, voulaient tout simplement que l'on parle de l'Océanie. Mission accomplie, comme nous le rappelle le ministre.
L'idée principale, c'était d'abord de faire connaître l'Océanie. C'est Jean-Marie Leclerc qui disait que si l'Afrique était le continent oublié, l'Océanie était le continent invisible. Donc, on ne veut plus être invisible. C'était ça l'idée principale. On veut faire parler de l'Océanie. On veut que les gens sachent que au moment où les grands de ce monde parlent du réchauffement climatique, eh bien, certaines de nos îles avaient déjà les pieds dans l'eau. Tout cela pour encore une fois trouver un moyen de dire que voilà, on est petit, on est très bien enraciné dans nos îles, mais on regarde l'horizon aussi et on veut se faire connaître. Moi, je suis très content de voir comment aujourd'hui cette manifestation perdure dans le temps. C'est pas important que l'on sache qui a créé la manifestation. C'est pourquoi elle existe. C'est ça qui est le plus important.
Voilà, et vous retrouverez sur notre site internet radio1.pf le guide complet et le programme de ce 14e FIFO. Et ça promet d'être un très bel événement.
Retrouvez l'info en continu Radio 1. Sur radio1.pf.